cuisine votre été avec une pointe d'acidité, le samedi à 10h. France Inter,
la différence.
15h04 sur France Inter, on retrouve Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Moi, je veux dire, il y a quelques années, Patrick Font et Philippe Val à l'Olympia avaient un sketch dans lequel ils s'indignaient notamment que la gauche voulait nationaliser les grandes réalisations de la droite, notamment le Concorde. Et Val disait qu'il voulait nationaliser le Concorde pour que les capitalistes continuent d'aller plus vite de Paris à New York afin de pouvoir exploiter les ouvriers. Et Font de conclure par cette prophétie, quand les capitalistes auront des couilles en or, c'est la CGT qui leur taillera des pipes. Ben voilà, Philippe Val, nous y sommes, les capitalistes ont des couilles en or, mais c'est pas la CGT qui leur taille des pipes.
Je suis aujourd'hui à Clermont-Ferrand, place des Carmes. On manifeste contre le régime totalitaire de Sarko et sa retraite à 90 ans et plus. Et puis je voulais dire aussi que je soutenais Stéphane Guidion et Didier Porte, parce que tout ça, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt. Et vive la liberté d'expression, et je suis solidaire.
Bonjour, ce message s'adresse à la direction de la station à propos de Stéphane Guillon et Didier Porte. Votre courage m'a frappé. Vous n'avez pas tergiversé, vous avez frappé net. Je vous remercie d'opérer au grand jour. Être l'obligé du pouvoir pousse fréquemment à la dissimulation ou à l'hypocrisie. Rares sont ceux qui assument honnêtement le rôle de censeur. La voix de France Inter n'en sera que plus claire après cette éructation. Elle n'en sera que plus juste et que plus accordée sur la partition nationale. Moi, je vous laisse entre vous, merci. Je vous laisse fermer la marche et suivre du doigt et de l'œil le petit chef d'orchestre qui, lui aussi, finira un jour par avoir fait son temps. La perspective aura basculé ce jour-là, face ou pile, pile ou face, judicieux ou servile. Judicieux aujourd'hui, servile demain, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Mais l'on n'a pas besoin des lumières pour écouter la radio, car France Inter dit, France Inter ment, France Inter dit, France Inter ment. Puisqu'il a perdu sa liberté, j'ai fermé mon poste. Ah oui, bonne chance pour votre carrière.
Deux coups de gueule, un pour le licenciement de Stéphane Guillon et Didier Porte, scandaleux. Je me tâte d'arrêter d'écouter France Inter que j'écoute depuis 35 ans. Deuxième coup de gueule, par rapport aux retraites où je serai à la manif ce matin, enfin cet après-midi à Paris. On oublie trop souvent les exonérations des charges dites patronales qui pour cette année représentent 32 milliards sans compter les emplois précaires qui sont défiscalisés et qui n'ont pas de charges. Tout ça, ça fait de l'argent en moins sur les retraites. Mais le problème, c'est que personne n'en parle, donc pas de consensus avec Sarkozy. Un seul mot d'ordre, retrait de ce projet de loi inique et scandaleux.
Il restait plus que France Inter comme véritable radio, alors à la fois du service public, mais surtout, on va dire, presque libre. Enfin bref, radio libre, comme disaient des proches, c'est faire une insulte à la liberté d'appeler ça comme ça. En tous les cas, bah écoutez, bye bye France Inter. Ah si, il me restera encore une émission à écouter entre 15h et 16h la semaine. Eh oui Daniel, on restera fidèle, mais à mon avis, tu vas pas faire de vieux os, hein. Allez, je vous fais à tous un gros bisou, bon courage et continuez la lutte.
Je téléphonais parce que je suis révoltée par l'éviction de Stéphane Guillon et le licenciement de Didier Porte. J'ai entendu Jean-Luc Hesse hier dans le 13h. Moi, je pense qu'il en fait un vrai problème personnel. De toute façon, lui et Val, quoi qu'il en dise, sont entachés par leur nomination par Sarkozy. Et je pense que ça, ils vont le traîner jusqu'à la fin de leur carrière. Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un vrai problème d'ego. Et que, évidemment, comme ça s'était déjà passé au moment de l'éviction de Laurent Ruquier, au moment de l'arrivée de Jean-Luc Hesse à la tête de France Inter, ben, France Inter va perdre beaucoup d'auditeurs. Hein. Et je commence à me demander si tout ça n'est pas orchestré sciemment pour affaiblir France Inter et donc le service public. Parce qu'un service public affaibli en période électorale, c'est évidemment bien plus facilement manipulable. Donc on vit vraiment une période, moi je trouve, extrêmement inquiétante depuis ces 3 semaines, c'est absolument hallucinant. Jusqu'où la société française va absorber tout ça?
Je vous téléphone pour que nous pétitionnions nombreux sur le site de lapétition.be, je répète, lapétition.be, pour réclamer le retour de Didier Porte et de Stéphane Guillon à l'antenne dès le mois de septembre. Je répète, il faut pétitionner nombreux parce que les dirigeants de France Inter s'attendent bien évidemment à ce qu'il y ait des réactions et seul le nombre, le très grand nombre, pourra faire quelque chose. Ne comptez pas sur votre voisin, faites-le vous-même. Merci.
Avec l'éviction de Porte et de Guillon de votre antenne, c'est pas la liberté d'expression qui est remise en cause, c'est plutôt le fait de s'exprimer de façon aussi vulgaire, aussi bête, aussi primitive et aussi méchante, quoi. Si encore il y avait l'alibi du talent, il n'y est même pas.
Des centaines de messages comme cela sont arrivés dans la boîte vocale de la basse J'y suis au cours de ces deux journées. Également les mails, des messages de tous les côtés. Un véritable tsunami tombe sur Radio France. Et il est très difficile de trouver des messages qui vont dans le sens inverse, même si on en a eu deux. On en a reçu deux sur plusieurs centaines de messages. Et on va vous les faire entendre. Vous avez compris que nous allons parler de ce qui secoue cette maison de l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Hier, dans la manif à Paris, c'était quand même bien ça l'événement. L'événement, la grande nouvelle, c'est le formidable succès de la mobilisation contre les réformes des retraites, 2 millions de Françaises et de Français dans les rues, malgré toutes les stratégies de diversion qu'on a pu voir et entendre, les reportages sur les usagers en colère, etc., comme d'habitude. Mais ça a été un formidable succès contre la destruction des acquis et des conquis sociaux. Mais il faut dire que c'était pas facile hier de se concentrer sur cette manif, tant vous étiez nombreux à nous demander mais qu'est-ce qui se passe à France Inter, qu'est-ce que vous devenez à France Inter, mais pourquoi ils ont fait ça à France Inter, colère, protestation, incompréhension, qui se fait l'écho du malaise sans précédent, et je dis bien sans précédent, ça fait plus de 30 ans que je suis dans cette maison, malaise sans précédent qui règne à l'intérieur de France Inter. Et d'ailleurs, à ce sujet, la société des journalistes et la société des producteurs de France Inter adresse une lettre aux auditeurs, c'est-à-dire à vous-même, en ces termes. Chers auditeurs, c'est à vous que nous souhaitons nous adresser après l'éviction de Didier Porte et Stéphane Guillon, éviction que nous avons apprise comme vous en écoutant l'antenne de mercredi. Nous sommes sous le choc de ces annonces aussi brutales qu'incompréhensibles. Que se passe-t-il dans notre radio, celle que vous aimez, celle que nous fabriquons? Ce qui se joue à France Inter, au-delà même des personnes concernées, nous semble lourd de symboles quant à l'identité de notre radio. Nous vivons un tournant qui nous inquiète dans l'histoire de cette station. Nous, personnel de France Inter, partageons un attachement indéfectible à la liberté de ton, à l'impertinence, à l'exigence, à la différence. Et c'est ce que nous défendons tous les jours à l'antenne. Ce qui a fait le sel et la valeur de cette station depuis tant d'années ne peut devenir un simple argument publicitaire, vide de sens. Ces valeurs dont nous sommes fiers et qui représentent l'ADN de France Inter se trouvent remises en cause et gravement menacées. Avec le renvoi de ces deux humoristes se pose la question de la garantie de notre indépendance. De très nombreux membres du personnel de France Inter, techniciens, réalisateurs, attachés de production et assistants d'édition, se joignent à nous, journalistes et producteurs, pour vous adresser ce message. Être une radio de service public a un sens. Vous, auditeurs, nous, personnel de France Inter, devons veiller à en garantir la pérennité. Voilà la fin de ce message. Et la CGT, Radio France, qui a distribué hier notamment, mais partout, un tract intitulé « Les pantins de l'Élysée Ce démasque appelle tous les salariés et tous les auditeurs à organiser la riposte à cette attaque et à se retrouver tous ensemble devant les locaux de Radio France, dans les régions et devant la Maison de la Radio à Paris pour une journée nationale de mobilisation le 1er juillet prochain. Voilà. Nous, aujourd'hui, dans la Basse, si j'y suis, on va consacrer cette heure en hommage à ceux qui agrandissent la cage, qui ont passé leur vie, leur temps, pas toute leur vie forcément, pas tout leur temps forcément, mais à agrandir la cage, ou au moins à maintenir la surface de la cage. Ce sera la forme d'hommage à nos deux confrères qui ont été brutalement limogés, je dis bien brutalement limogés, et à tous ceux qui ont fait en sorte que je puisse parler comme je suis en train de le faire, non pas moi, Daniel Mermet, mais tous ceux qui ont fait qu'on puisse parler comme ça sur une radio. C'était pas gagné d'avance, mais c'est une succession de luttes, de goût pour la subversion, pour la transgression, tout simplement, et pour tout dire, pour la résistance, ou au moins un certain esprit de résistance. Voilà à quoi nous allons consacrer cette heure, cette dernière heure de là-bas si j'y suis pour la saison. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour à tous. Alors, d'abord, ça s'adresse à Monsieur Jean-Luc S. Monsieur S, permettez-moi une suggestion. En remplacement de Stéphane Guillon et de Didier Porte, repassez les sketchs et autres écrits de Monsieur Philippe Val. Cela vous permettra de relativiser vos émois de vierge effarouchée.
Oui, salut Daniel et toute l'équipe de là-bas. C'est Gaëtan de Rouen. Mais écoute, je reviens de la manif de Rouen, donc c'était vraiment sympa. Il y avait vraiment du monde et les gens ont l'air bien remontés. Et en même temps, sous le soleil, c'était vraiment bien.
Salut les amis, alors salut les AMG, salut l'ESG, hein, tant pis je fais de la lèche, mais l'équipe franchement géniale de là-bas. Donc les amis, je vous appelle comme tout le monde pour dire à quel point je suis ultra scandalisé, ursé, ébahi, abasourdi par l'éviction complètement délirante de Porte et de Guillon. Porte que vraiment j'adorais autant que vous, je suis vraiment, voilà, les bras m'en tournent. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en termes de tournage de Kazakh, Monsieur Philippe Val se pose là. Alors je vais pas faire dans les bas-fonds en ressassant les histoires avec Fonte. Néanmoins, ce que je voulais préciser, le détail amusant, c'est que donc avant d'être marin, j'étais aussi musicien et j'ai joué pour lui pendant un an au théâtre dont Coluche avait au café de la gare. Donc Coluche avait instauré, vous savez, le prix avec la roue là. Et donc je sais pas si vous imaginez, je veux dire, c'était du cabaret, c'était de la tradition de la chanson, quoi. Et donc on croit rêver que maintenant ce soit Philippe Val qui vire Didier Porte. C'est juste complètement délirant. Coluche doit se retourner dans sa tombe. Et je le comprends bien, quoi.
Je me demande pourquoi M. Philippe Val, si c'est lui, a pris cette double décision, moi que je qualifie de fatale. Il a éliminé deux de ses plus percutants humoristes, Guillon et Porte. Ils dérangent, ils peuvent être grossiers, mais ils font mouche chaque fois. Ils vont nous manquer beaucoup. Je vais finir par croire qu'il a cédé à des pressions venues d'ailleurs, on va dire. Un ailleurs où la grossièreté n'a jamais manqué, d'ailleurs. J'attends la rentrée, avec impatience, peut-être y aura-t-il une nouvelle décision. Je veux dire bravo à ceux qui ont soutenu leurs deux collègues. Et à l'occasion, j'ai été très déçue par l'attitude de Nicolas Demorand, que j'aimais bien. Et j'ai trouvé qu'il ne soutenait pas du tout son collègue. Ça m'a étonnée, voilà.
Salut Mermet, je suis écœuré par le licenciement de Didier Porte et de Stéphane Guillon de France Inter. Philippe Val, qui fut un temps défendait la liberté de caricaturer tout le monde, y compris les dieux et les maîtres, voire les caricatures de Mahomet, s'érige par cette décision en défenseur intraitable de l'image immaculée de Sarkozy, notre maître à tous. Quant à Jean-Luc S, qui depuis sa nomination se défend de toute dépendance vis-à-vis du même Sarkozy, il vient par ce forfait de perdre son dernier once de crédibilité au cas où il en restait un. France Inter devient une radio d'État où la censure règne chaque jour un peu plus afin d'asservir chaque auditeur à Sarkozy, notre maître à tous. et dire que vous osiez revendiquer la différence. Salut Mermet, bon courage pour la suite.
Oui, bonjour, c'est Laurent de Nantes. Je voulais vous dire que je n'écouterai plus France Inter, à part là-bas si j'y suis, bien sûr. C'est non pour votre directeur, enfin Guillon, Porte, Eric Lange. Je me levais avec Guillon, je me couchais avec Eric Lange. Voilà, bah c'est fini maintenant. Ok, je prendrai un bon bouquin. Voilà, et au plaisir quand même. Salut.
Salut Daniel, là, je suis en train d'acheter du fromage, du pâté et de la bière. Parce que ce soir, on a pillage du journal Fakir. Et il faut bien abreuver les bénévoles. Et tu sais où je me procure le casse-croûte, là ? Eh bien, c'est au petit casino de mon quartier. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'Assemblée Générale des Actionnaires de Casino, ils nous avaient remis un bon de 25 euros. Alors voilà, il nous sert à ça, c'est le bon de 25 euros, au casse-croûte de Fakir. Et il faut bien qu'on économise là-dessus. Parce que là, comme cadeau de fin d'année, on vient de recevoir une assignation de Jean-Charles Naouri qui nous annonce que Casino et Jean-Charles Naouri sont les victimes d'un véritable acharnement médiatique piloté par Fakir. Tu vois un peu, un acharnement médiatique piloté par Fakir. On le voit, la 63e fortune de France avec ses 11 000 magasins, ses 200 000 salariés, ses 26 milliards de chiffre d'affaires. Enfin bref, ce malheureux entrepreneur tremble devant la puissance de Fakir. Et c'est pour cette raison qu'il nous réclame 75 000 euros. Alors 75 000 euros, c'est quoi ? Bah, c'est une goutte d'eau dans le budget d'un journal comme Fakir, on l'imagine bien. Enfin bon, on ne s'est pas couché devant ces menaces, devant les mises en demeure, les procès. Et dès demain, dans tous les kiosques de France, eh ben, on pourra trouver le nouveau Fakir. Le nouveau Fakir paraîtra avec plein d'autres reportages, mais aussi une enquête sur Jean-Charles Naouri, l'homme qui a livré la France à la finance. Allez, maintenant, je passe à la caisse. Et je te souhaite de bonnes vacances, Daniel, et à tous les auditeurs. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Allez, ciao, Daniel.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec toute l'équipe. Là-bas, dernier hommage à ceux qui agrandissent la surface de la cage.
Nous sommes en 2010 et vous regardez la télévision avec publicité. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est Guy Bedos qui nous accompagnera tout au long de ce journal avec le dernier humoriste français libre. Nous reviendrons sur le limogeage de Stéphane Guillon de France Inter.
Ça m'énerve, je suis écœuré. Les censeurs sont de retour, ça me dégoûte.
Ah oui, là, la liberté d'expression prend un sérieux coup sur le service public.
C'est terminé. On revient aux sombres heures de l'histoire, quand Giscard m'est privé de télé et de radio. Ce type, cet accordéoniste sans talent, qui était déjà chauve avant d'avoir des cheveux, et déjà vieux avant d'avoir été jeune.
C'est vrai qu'on n'avance pas beaucoup. Hein.
Les Arabes en burqa, les cocos, les pédés, les juifs, les portugais, les noirs, les curés pédophiles.
Qu'est-ce que vous faites, Guy, là ?
Je testais pour savoir si on était libre de dire ce qu'on veut sur Canal.
Oui, bah, doucement, on est en vacances dans deux jours, ce serait dommage de s'avener un an de courbette au pouvoir. Hein.
Les escrocs.
On sait. On va y revenir. Vous comprenez que Stéphane Guillon soit licencié ?
Je t'avouerai que je tombe des nues. J'ai écouté toutes ces chroniques, aucune n'était choquante.
Bah, quand même, celle sur DSK était limite, il l'a traité d'obsédé sexuel.
C'est vrai, il n'aurait pas dû dire ça.
Ah, on est d'accord.
C'est pas un obsédé sexuel, c'est un agité de la braillette. Une bite avec des mocassins, un prof d'éco en rut qui a failli faire un trait sur sa carrière pour sauter une secrétaire hongroise plus moche que Monica Lewinsky.
Non, doucement, Guy.
Bah, pardon, mais ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il a dit, hein ? Rien.
Bah, il a traité Martine Aubry de petit pot à tabac.
C'est vrai, il n'aurait jamais dû dire ça, Guillaume.
Bah, on est d'accord, là.
Martine, c'est pas un petit pot à tabac, c'est un énorme pot à cornichons. Une poubelle avec une perruque qui a échangé les idées de son père contre son poids en choucroute. Elle nous fait chier avec sa vieille garde d'éléphants ringards, tous plus cons les uns que les autres, qui s'accrochent à leur poste comme des bigorneaux sur un galet breton. Au final, on va se retrouver avec le petit caporal jusqu'en 2012, ou jusqu'en 2017, ce qui fait que je vais crever la gueule ouverte sous le sarkozisme. Merde ! Quoi d'autre ?
Rien, non. Il n'y avait rien dit d'autre.
T'es sûr ? Il n'avait rien dit sur Éric Besson?
Non, il l'aimait beaucoup.
Escroc, t'as peur, je me souviens très bien. Je suis peut-être un vieux con, mais j'ai de la mémoire.
Bien, merci Guy.
Il avait traité Besson de traître aux yeux de fouine et au menton fuyant, ce qui n'est pas une insulte, mais une description fidèle de ce personnage abject qui se prétend de gauche alors qu'il passe son temps à expulser des enfants. Ça me dégoûte.
Merci Guy, merci.
Moi, je ne l'aurais pas comparé à une fouine, mais à un coq.
Voilà, oui, ben, ça se serait passé, je pense.
Le seul animal assez con pour chanter la Marseillaise est de pied dans la merde.
Ouais, c'est moins bien, là, du coup.
Mais c'est pas de moi, c'est de Coluche. Mais à l'époque, on avait le droit de dire ce qu'on voulait. Merde.
Bien, ben, c'était super de vous recevoir, hein.
Ta gueule, escroc.
Pénible, ces humoristes, hein. Heureusement qu'il y en a de moins en moins. Merci, Philippe Val. Allez, la suite.
Étonnant les messages que nous avons reçus ces jours et ces heures dernières. Étonnant et qui montre et qui démontre les liens extrêmement étroits, amicaux, intimes qui peuvent exister entre vous et nous tous. Sur cette antenne de France Inter, plus généralement sur Radio France. On n'a évidemment pas oublié, l'équipe de la Basse J'y suis n'a évidemment pas oublié, en 2006, lorsque cette émission a été déplacée de 17h à 15h, le soutien formidable que vous nous aviez à l'époque adressé, 200 000, vous aviez été à signer une pétition en l'espace de moins d'un mois. Je me souviens alors du dialogue que j'ai pu avoir avec le président de l'époque, qui avait fini par me dire, vous comprenez, il fallait bien équilibrer l'antenne à la veille d'une grande échéance électorale. Ce qui revenait à dire que ce déplacement, cette relégation de notre émission avait un sens politique. C'est pour ça qu'il est très très difficile pour vous, entre autres, et pour une bonne partie d'entre nous, de croire qu'il n'y a rien de politique derrière ce brutal limogeage. Là, il y a des liens intimes, je le disais, qui nous lient, et il faut espérer, bien sûr, que ce ne sera pas un accident industriel comme celui qu'avait connu Radio Luxembourg, Radio Télé Luxembourg, RTL en 2000, où un directeur avait cru devoir virer Philippe Bouvard et ses grosses têtes, ce qui avait valu une chute considérable. Plus de 2 millions d'auditeurs avaient quitté cette station et ne sont jamais revenus. Espérons que, comme d'ordinaire, vous reviendrez, que vous bouderez un peu, mais ça n'est pas si sûr. Personne ne garantit cet attachement à vie. Ce qui est préoccupant dans ce qui se passe là, c'est effectivement l'atteinte à l'esprit de transgression, à l'esprit d'insoumission, dont les fous du roi, les comiques sont les avant-gardes et les signaux les plus voyants. Mais derrière eux, il y a tout cet esprit indispensable, ancien, et qui a assuré, l'entrée parfois de quelques lumières dans nos vies et dans notre histoire et l'agrandissement de certains horizons. C'est en cela qu'il y a une préoccupation très profonde lorsque cette subversion, ce goût de la transgression, et pour tout dire, je le répète encore, ce goût de la résistance est ainsi censuré, parce qu'il faut bien employer certains mots. La grandeur et la puissance du prince se mesurent à sa mansuétude envers ses bouffons. Lorsque le prince fait exécuter ses saltimbanques, ses saltimbanques moqueurs, ses merles moqueurs, il avoue tout simplement sa faiblesse, il montre son illégitimité et l'amorce de son déclin. Voilà peut-être, ce qui peut nous, vous, consoler.
L'évadé du fou du roi, c'est Didier Porte. Bonjour Didier.
Oui, bonjour Eric. Vous permettez que je vous félicite.
Allez-y, j'adore ça.
Je vous écoute tous les matins depuis le début de la semaine. Vous faites un super boulot. C'est autre chose que de mort. lequel, soit dit en passant, se la pète relativement velu, hein, Eric, entre nous, franchement. De Morant, il a pris la pastèque. Comme vous disiez tout à l'heure, hors antenne, c'est ça, il se tire sur la nouille en permanence. C'est exactement ça. Non, vraiment, bravo, hein, super boulot. Bien, sinon, ce matin, je voudrais saluer l'esprit d'initiative et aussi le courage politique, il faut bien le dire, du délégué interministériel à la communication gouvernementale, Thierry Sausset, qui a annoncé en début de semaine qu'il réfléchissait à un programme de télévision destiné à expliquer l'action du gouvernement aux Français, programme régulier qui serait tout naturellement diffusé par une chaîne publique. Alors, vous vous en doutez, comme toutes les idées un peu novatrices, un peu politiquement incorrectes, celle-là a provoqué une de ces broncas dont le microcosme germano-prato-bélouguien est coutumier. Du café de Flore à la closerie des Lilas, où notre ami de Morant a son rond de serviette, j'imagine. Ce ne fut qu'un seul cri d'Orfraie, au secours, Michel Droit est de retour. Certains grands mots, qui sont si souvent l'apanage des petits combats, furent lancés à la figure de ce malheureux Thierry Sausset, qui en pâlit d'effroi, et Dieu sait que dans son cas, ce n'est pas facile. Pravda, Léonide Brejnev, Kim Jong-il, Jean-Pierre Elkabbach, peut-on entendre ou lire ici ou là des qualificatifs tellement infamants que le secrétaire général de l'Élysée en personne, Claude Guéant, s'est senti obligé de désavouer publiquement le courageux délégué interministériel. Eh bien moi, je lui apporte mon soutien total à Thierry Sausset. En tant que station de service public, France Inter a le devoir d'expliquer la politique du gouvernement, et je vous incite, mes chers amis, à vous investir dans cette mission avec un peu plus d'enthousiasme, lequel n'est pas toujours très perceptible, surtout depuis l'éviction scandaleuse de celui qui était l'unique garant du pluralisme au sein de cette rédaction, à savoir Jean-Marc Sylvestre. Alors, on se met au travail, et sans rechigner, s'il vous plaît. D'abord, vous êtes gentils, vous lâchez tous la petite poupée vaudou que vous a fait distribuer la directrice de la rédaction, Hélène Jouan, soi-disant pour vous détendre, merci. On va mettre en place une sorte de groupe de parole, d'accord ? Alors, on va commencer par un truc facile pour vous aider à libérer votre parole, justement, après vous verrez, ça va venir tout seul. Alors, parlons un peu de François Hollande. Qui veut s'exprimer en premier ? Éric !
Je passe mon tour.
François Hollande. Hey, il est nul, non ? Mais si, il est tout mou, il est velléitaire, incapable de trancher dans le vif, tout ce qu'il sait faire, c'est des blagues à deux balles, en disant il a coulé le Parti Socialiste. En gros, c'est une bique. Allez-y, on vous écoute, Éric, vous répétez après moi. François Hollande est une bique. C'est un peu difficile encore, hein. Bon, on va essayer avec Delanoé, là ça va le faire. Hein. Delanoé, qui sort un bouquin avec écrit en gros sur la couverture « Je suis libéral » et 6 mois plus tard, patatras, la crise de 29, on colle les traders en garde à vue, Henri Guénaud recopie des chapitres entiers du programme commun de 72 pour écrire le discours de Sarkozy, les patrons sont obligés de reverser leur parachute doré à Sœur Emmanuel, la CGT a ouvert un bureau à Davos et l'autre couillon, quand il débarque en province pour animer un meeting, t'as les militants locaux qui l'accueillent en disant « Tiens, voilà le libéral ! Hé Bertrand, fais gaffe, on va te nationaliser ton Vélib !» Avouez qu'il est très con, non, Éric ? Il est un peu con, Delanoé, franchement. Bon, d'un autre côté, quand on a appris le marxisme avec Dalida, hein, ah, qu'est-ce qu'il est con ! Bon, allez, Éric, Françoise, Philippe et Agnès, je vois que vous êtes encore un peu inhibés. Je vais vous faciliter le travail. Parlons de Dominique Strauss-Kahn, le présidentiable du PS. Il était peinard, bien à l'abri au FMI, en embuscade, prêt à sauter sur le parti juste avant 2012. Et badaboum, il a sauté trop tôt. Sors de ce corps, Rocco Siffredi ! Et derrière ça, Anne Sinclair, Amérique oblige, qui se voit contrainte de lui apporter son soutien public. Hein, ça va bien renforcer sa cote auprès de l'électorat féminin en général et du PS en particulier, à DSK. D'ailleurs, au cas où il voudrait repartir à la conquête du parti, Martine Aubry et Laurent Fabius ont déjà fait imprimer pour ses supporters des milliers de t-shirts avec marqué dessus « Nous nous aimons comme au premier jour ». Remarquez, il pourra toujours se représenter en 2017. Hein, comme on dit désormais au PS, « Mieux vaut que tard que jamais ». Allez, lâchez-vous un peu, les amis. Dites-le donc que DSK est une vraie courge dans tous les sens du terme, non ? Bon, puisque vous le prenez comme ça, je vais être obligé de sévir. Je vais faire un exemple, puisque manifestement c'est le seul langage que vous comprenez. Françoise de Goix, vous vous asseyez à votre micro tout de suite. Vous ne discutez pas, voilà. Maintenant, vous allez répéter après moi à haute et intelligible voix, afin que toute la France vous entende. Ségolène est une poufiasse. Allez, Ségolène est une poufiasse. Mais qui vois-je donc arriver dans le couloir ? Serait-ce Harry Roselmack ? Ah non, pardon, c'est Thierry Sausset. Je l'ai confondu à cause des UV. Je pense qu'il vient nous féliciter, car pendant au moins quelques minutes ce matin sur France Inter, on aura bien expliqué la politique du gouvernement.
Allez. C'était l'humeur de ce matin, l'humeur de Didier Porcon.
Bah tu vois là, je vais te faire une chanson, et bah la chanson là, et bah à chaque fois que je la chante, et bah y a plein de gens, bah ils veulent me taper.
Les Arabes, c'est comme les lesbiennes et les drogués.
les romanos, les artistes et les putes, les handicapés, c'est comme les lépreux et les noirs, les clochards, c'est comme les travelots et certains jeunes. Y'en a des biens, y'en a des biens, y'en a des biens, y'en a des biens, bien, bien. Les esthéticiennes comme les gonzesses, plus connes qu'une blonde. Les mecs encore plus cons qu'une esthéticienne, comme beaucoup de mecs. Les gros chefs d'entreprise comme les mecs qui vont aux putes. Le pape et ses copains comme certaines marques de capotes. Y'en a des biens. Allez, y'en a des biens. Allez, on chante. Y'en a des biens. Y'en a des biens, bien, bien, youpi. Là, par exemple, bah, ça peut être bien, mettons, t'écoutes le disque avec tes copains, mais et bah, tu filmes que loulou. En plus, y'en a, ils vont le faire. Les politiciens, comme les trafiquants d'armes. Les présidents de la République, comme les petits escrocs. Les alcooliques et les dépressifs, comme les mecs dans la police. Le curé intégriste, comme les pédophiles. Allez, y'en a des biens. Quand même des fois, il y en a, ils font chier.
Didier Super, hommage aujourd'hui pour cette dernière de la basse j'y suis de la saison à ceux qui s'emploient à agrandir la surface de la cage et la longueur de la laisse. C'est pas toujours les rigolos, c'est pas toujours ceux qui se mettent dans la lumière en première ligne avec le nez rouge qui sont les plus efficaces dans ce sens-là. C'est tous ceux qui sont derrière aussi, derrière la vitre là par exemple. Y a des complices. On a la liste de tous ceux qui se marrent et qui poussent à la roue et qui glissent des trucs, qui glissent. Je me souviens d'un techno, il y a très longtemps, qui racontait comment lui, il avait réussi à passer des Brassens au début des années 60, mais à 5h du soir, 5h de l'après-midi. Il était très fier de ça, il avait réussi, alors que c'était interdit. Vous savez que, vous connaissez cette histoire, Brassens était interdit, et pas avant 22h ou minuit, je ne sais plus très bien quel était l'horaire, et bien c'était sa fierté. C'est des petits actes comme ça qui font quoi ? Qui font qu'on se prend pour des grands révolutionnaires, des grands libertaires. Non, c'est simplement cet esprit, ben voilà, d'insoumission. Un esprit qui est de la même famille que l'esprit de transgression, d'invention, de rupture, qui s'oppose à l'esprit, évidemment, conservateur. L'esprit conservateur veut pas que ça bouge. Les conservateurs, ils ont quelque chose, ils possèdent quelque chose, ils n'ont pas envie d'en être dépouillés. Voilà pourquoi ils veulent que les choses je conserverai, ne bougent pas. Et si possible, agrandir leur patrimoine, leurs biens et leurs privilèges. Alors voilà, cette chronique de Didier Porte, où il pouvait sans problème faire hurler que Ségolène était une poufiasse et que François Hollande était une bique. Ça n'avait pas du tout posé de problème. Donc il y a des moments où on se demande, voilà, on peut se poser des questions. Alors, est-ce que ceux qui agrandissent la surface de la cage aujourd'hui sont plus ou moins courageux que ceux d'hier? Est-ce qu'autrefois, comme on le répète souvent, on pouvait tout dire, comme Bedos le disait, enfin du moins dans les guignols qu'on vient d'entendre, on fait dire à Bedos, oui, dans le temps, on pouvait rigoler beaucoup plus, on pouvait dire ce qu'on voulait, merde, c'est drôle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Écoutons ce sketch d'un humoriste qui ne vous est pas inconnu et qui date de 1984.
On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. On pouvait rester, hein.
N'empêche que on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale,
De nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des juifs. Mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui. Et qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance, hein? Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je n'ai rien contre ces gens-là. Bien au contraire. Je suis fier d'être citoyen de ce beau pays de France où les juifs courent toujours. Je me méfie des rumeurs, vous savez. Quand on me dit que si les juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, je pouffe. Puis d'abord, il y a juif et juif. Hein? Oui, il y a deux sortes de juifs. Il y a le juif assimilé et le juif juif. Et c'est pas pareil du tout, non. Oui, le juif assimilé, bon, c'est n'importe quoi. C'est le genre de mec qui regarde l'Holocauste les pieds sur la table en bouffant du cochon pas cachère, vous voyez. Il sait même pas reconnaître le mur de Berlin du mur des Lamentations. Là. Et il joue au squash, quoi, là, c'est un mur. Enfin, ces gens-là sont la honte des synagogues. Oui, j'en connais, j'en ai plein mes salons. Ils auront même pas la chance d'être connus par les nazis lors de la prochaine. Le juif juif, lui, c'est différent, hein, oui. Le juif juif, comment dire, il se sent plus juif que fourreur. Oui. Il renacle à l'idée de se mélanger aux gens du peuple non élu, en dehors des heures d'ouverture de son magasin, bien sûr. Tout petit, il recherche la compagnie des autres juifs. C'est pas toujours évident de... Non, c'est pas toujours évident de reconnaître comme ça, du premier coup d'œil, un juif d'un antisémite, hein. Ben oui. Naguère encore, du temps de mes parents, on reconnaissait facilement les juifs. Ils avaient les lobes des oreilles pendants, les doigts et le nez crochu, et la bite à col roulé. Mais de nos jours, vous comprenez bien que ces gens-là, ils se font tous raccourcir le nom et raboter le pif par les as de la chirurgie esthétique. Alors on les reconnaît plus. Regardez Jean-Marie Le Pen-Hovichstein, là. On dirait un breton. Vous savez que tous les praticiens de la chirurgie esthétique sont juifs. Tous les médecins sont juifs. Tous les archevêques de Paris sont juifs. Tout le monde sont juifs. En tout cas, les médecins, je suis sûr. Alors là, tous les médecins sont juifs. Enfin, le docteur Petiot, c'est pas sûr. Vous savez qui c'est, le docteur Petiot? Les petits. Ils sont bêtes à cet âge-là, ils savent rien. Si vous voulez, en gros, le docteur Petiot, c'est ce médecin parisien qui a réussi à démontrer en 1944 que les juifs étaient solubles dans l'acide sulfurique. Eh bien, le docteur Petiot n'était pas juif. Alors que Léon Schwarzenberg, si. D'ailleurs, il n'y a aucun rapport entre Petiot et Schwarzenberg. Je ne sais même pas pourquoi je fais le rapprochement. Enfin, je veux dire que Schwarzenberg, lui, ne fait pas exprès de tuer les gens. Non. Encore un bruit sans fondement quand on dit que les juifs sont vecteurs de maladies. C'est pas vrai. Regardez, Schwarzenberg, il n'est pas cancérigène. Comme disait Reiser, il suffit de pas trop s'approcher. Les juifs juifs ne se marient qu'entre eux, bien sûr. Oui, je relisais à ce propos récemment « Juifs et Français ». C'est un livre d'Harry Cécédoui qui est paru chez Grasset il y a quelques années. Et dans ce livre, les auteurs demandaient à une journaliste, une grande journaliste française, très talentueuse, très belle en plus, qui gâte rien, dont je tairai évidemment l'identité par pure discrétion. Il lui demandait si elle aurait épousé Yvan Levaille pour le cas où il n'aurait pas été juif comme elle. Eh bien, cette jeune femme a répondu que probablement non, elle n'aurait probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. Eh bien, moi, je comprends cette attitude qu'on pourrait un petit peu hâtivement taxer de racisme. Moi-même, qui suis limousin, j'ai complètement raté mon couple parce que j'ai épousé une non-limousine. Une Vendéenne. Ah ben, je suis désolé, mais les Vendéens ne sont pas des gens comme nous. D'accord, ils ont des petits lobes et les doigts droits, mais nos patois ne sont pas les mêmes et nos coutumes divergent. Et divergent, c'est énorme. Mmh.
Voilà une femme, n'est-ce pas, qui mange du poisson le vendredi en tailleur Chanel, alors que moi je mange du bœuf Mironton le lundi en pantalon de velours. Il n'y a pas de compréhension possible. Il n'y a pas de compréhension possible. Nous avons notre sensibilité, Limousine. Nous avons notre humour, Limousin, qui n'appartient qu'à nous. Nous partageons entre nous une certaine angoisse de la porcelaine, peu perméable au chouan. Il faut avoir souffert à Limoges pour comprendre.
Daniel Mermet nous dit qu'il n'y avait pas un seul message approuvant l'éviction de Didier Porte. Comme c'est étrange. Si le répondeur se traduisait dans les urnes, 90% de la France voterait Besancenot. D'ailleurs, c'est curieux, quand je laisse un message, il n'est jamais diffusé. C'est d'ailleurs pour ça que j'en balance presque plus. Et je ne dois pas être le seul. S'il y avait une émission d'extrême droite quotidienne à France Inter qui ne fasse passer quasiment que des messages d'extrême droite, pensez-vous que les gens de gauche ne se lasseraient pas? Et en plus, les gens de droite, eux, ils bossent, et plutôt dans le privé ou à leur compte. Donc ils ont moins de temps. Eh bien moi je suis ravi que Didier Porte se soit fait virer, même si je n'aime pas ceux qui l'ont viré. Didier Porte, un comique moyen, beaucoup moins drôle que Régis Maillot, qui utilise l'antenne pour régler ses comptes et dénoncer comme à l'époque de Radio Paris. Et il est teigneux qu'un invité se revive et il exerce un droit de suite le lendemain, comme ça il a toujours le dernier mot. Il joua et jouit de se faire passer au deuxième degré pour un stalinien, sans égard pour les 25 millions de morts du goulag. Et il y a toujours du premier degré dans le deuxième. Et en plus, il ment. Il nous en a fait des pendules sur Julien Coupa au nom du droit et de la présomption d'innocence, disait-il. Sauf qu'il est clair que si ce Coupa avait été présenté comme d'extrême droite plutôt que d'extrême gauche, il n'aurait pas eu un mot et se serait collé ses grands principes sur le postérieur. Donc ce qui faisait agir Porte, en l'occurrence, loin devant tout le reste, était avant tout la proximité idéologique. Moi, je dis que ceux qui râlent dans le répondeur suite à cette éviction mériteraient d'être condamnés à ce qu'ils trouvent normal et jouissif de faire subir à d'autres. Une heure d'émission d'extrême droite par jour, plus les six chronique d'un polémiste de la droite dure. Ben oui, 6, car Porte avait double dose le jeudi. Je me demande quelle tête feraient les pauvres chéris, eux qui ne supportent déjà pas Finkielkraut une ou deux fois par an. Quant à ceux qui disent qu'ils n'écouteront plus France Inter, eh bien surtout qu'ils ne se gênent pas. Mais hélas, c'est du bluff.
Après 2 ans d'absence, découvrez vite le nouvel album de Michel Sardouille, La Rupture Tranquillou. La Rupture Tranquillou, c'est 14 chansons inoubliables, dont le déjà hit single « Au boulot les feignasses ».
Au boulot les feignasses, à la maison les pétasses, bon les clodos plus de vinasses, la rupture faut qu'on la fasse, mais on la fera tranquillou, comme on épile son minou.
Retrouvez aussi les sans-papiers cul.
Ils viennent squatter nos églises avec leurs filles qu'ils excisent. C'est dans la sacristie qu'ils chient, car ils sont sans papier cul aussi.
Ou encore les Turcs.
Qu'est-ce qu'ils ont contre le jambon?
Tranquillou, le tout nouveau Michel Sardouille. Un disque obligatoire sous peine de poursuite.
Ah, Michel Sardouille, un grand copain de Nicolas Sarcouille.
Hier, nous apprenions la disparition de Peter Greve, le héros aux cheveux blancs de Mission Impossible. Toutes nos auditrices sexagénaires sont en deuil. Ici aussi, nous avons de la peine. Cet agent secret nous a fait rêver, surtout quand la bande de son magnétophone s'auto-détruisait après usage. Le summum à l'époque des effets spéciaux. Pour cette raison, j'ai souhaité ce matin lui rendre un vibrant hommage. Bonjour, monsieur Fels. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, sera de sauver l'UMP. C'est un parti politique français qui vient de prendre une sacrée raclée, une branlée historique. Attention, cher Jim, il y a dans ce parti de véritables cas sociaux. Un grand blond spécialiste de la vanne raciste, un traître à la petite semaine, un analphabète décérébré qui donne son avis sur tout. Tous travaillent pour un petit homme autoritaire et très nerveux, atteint de la tremblante du mouton. Méfiez-vous, Jim. Il vient de se mettre au karaté. Toutes les nuits, il pratique le ushi ashi dashi. Dernière chose. Si vous ou l'un de vos agents étiez capturé, le département d'État nierait avoir eu connaissance de vos agissements. Dans 30 secondes, cette bande va s'autodétruire. C'est assez malin ce système de magnétophone qui s'auto-détruisait. On était obligé d'accepter la mission. Si Jim Fels avait eu son supérieur au téléphone, il l'aurait probablement discuté. Je refuse de sauver l'UMP, mon colonel. Jim, c'est un ordre. Ils sont foutus. Croyez-en mon expérience, totalement foutus. Je préfère sauver François Bayrou. Jim, je vous ordonne d'obéir. Oui, il est probable que Jim Fels, qui acceptait les missions les plus difficiles, les plus folles, les plus périlleuses, aurait refusé celle-ci. D'ailleurs, Peter Greve, l'acteur qui incarnait le célèbre agent, est mort à Los Angeles dimanche à 11h, 20h ici, l'heure des résultats, tout un symbole. A-t-il eu vent de la déroute de l'UMP ? Ses médecins, pour le maintenir en vie, lui ont-ils dit « Peter, il y a une mission impossible en France pour toi, un challenge incroyable, sauver l'UMP, save the UMP !» En grand professionnel, Peter Greve a dû demander des renseignements, une photo du secrétaire général de l'UMP, Xavier Bertrand, et son cœur a lâché à ce moment-là. « Everything is fucked up !» Tout est cuit. Why, Peter? Why? Pourquoi, Peter? Pourquoi? We can't save a political party with a bisounours head. On ne peut pas sauver un parti avec quelqu'un qui a une tête de bisounours. À propos de Xavier Bertrand, Nicolas Demorand le reçoit dans quelques minutes. Il est déjà dans nos locaux. L'ambiance est très lourde. Sur son passage, tout le monde chuchote. Certains lui adressent un mot gentil, une tape amicale. On a l'impression qu'il y a un mort. En tout cas, à France Inter, consigne a été donnée de ne rien faire pour le narguer. Interdiction de parader. Tous les restes de la fête de dimanche ont été planqués, cotillons, ballons, cadavres de bouteilles. Il n'y a plus rien. Oui. Oui, moi aussi, ça m'a choqué. Une telle fête dans une radio de service public, censée rester impartiale. Hélène Juan et Nicolas Demorand faisant la chenille dans les couloirs. Thomas Legrand soufflant dans une langue de belle-mère, un chapeau pointu sur la tête. Seul, Philippe Val est resté digne, enfermé dans son bureau et commençant à faire ses cartons. Pour terminer, j'aimerais rendre hommage à Jean Ferrat. Autre personnage célèbre aux cheveux blancs, ancien compagnon de route du Parti communiste français, mort vendredi, apaisé. Il savait que la droite allait prendre une raclée. C'est toujours un peu triste, les gens qui meurent sous le règne de Nicolas Sarkozy. Ils ne verront pas la fin, la délivrance, les drapeaux aux fenêtres, Carla Bruni s'exilante en Italie, Éric Besson expulsé au Maroc, sa terre natale, Frédéric Lefebvre avec du goudron et des plumes. Ah, ils ne verront pas tout ça.
Que l'on blesse.
Attention,
c'est toujours ton miroir.
Cette bande va s'autodétruire.
Nous sommes en 2010, vous regardez la télévision avec publicité, bonsoir. Aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Avec le président de la République, nous reviendrons sur l'éviction de Stéphane Guillon et Didier Porte de France Inter.
Je suis navré d'abord. J'ai pourtant tout fait pour empêcher ça.
Ah bon, ça ne vient pas de vous?
Mais non, je suis désolé de vous décevoir. À France Inter, j'ai nommé deux mecs de gauche, Jean-Luc Hesse et Philippe Val, pour pas qu'on me soupçonne d'avoir la mainmise sur France Inter. Et ils font pire que des mecs de droite.
Oui, c'est vrai que ça passe pas très bien. C'est la liberté d'expression qui est menacée sur cette grande radio.
Philippe Val de Charlie Hebdo, il m'insultait à longueur d'année dans son canard. Je pouvais pas deviner que ça allait devenir un faillot de la pire espèce.
Oui, là,
j'ai tenté de l'en empêcher. Je suis même allé le voir dans son bureau, Val. Il a rien voulu savoir. Il m'a même remis ça.
C'est quoi?
La lettre de licenciement de Guillon. Il m'en a fait cadeau. Tellement Val me mange dans la main, tellement c'est un paillasson, tellement c'est devenu mon valet de pisse.
Ah, et on va y revenir alors. Donc vous n'y êtes pour rien?
Mais non, j'ai appris ça comme vous, par la radio.
France Inter?
Ah non, moi je n'écoute qu'Europe 1.
C'est normal, oui. Monsieur Sarkozy, vous nous confirmez que vous n'avez pas donné d'ordre pour faire licencier Stéphane Guillon?
Mais je vous le promets, j'ai tout fait pour empêcher ça. Vous savez que Philippe Val est un ami de Carlita?
On sait, oui.
Eh bien, je l'ai envoyé pour tenter de le raisonner. Il n'y a rien eu à faire. Val était hors de lui. On ne touche pas à Nicolas, il est formidable, son bilan est parfait, il va sauver la France. On aurait dit un édito d'El Kabach.
On parle bien de Philippe Val de Charlie Hebdo.
Oui, oui, lui-même.
Mais vous ne pouvez rien faire pour empêcher le licenciement de Guillon.
Mais j'avais justement nommé Val comme garde-fou à France Inter pour pas être trop intrusif.
Oui, c'était bien vu.
Maintenant, quand on dit du mal de moi, Val, il pleure.
Non.
Mais je vous assure, la semaine dernière, j'ai perdu 5 points dans les sondages. On l'a retrouvé la tête dans le four. C'est Jean-Luc Hesse qui l'a sauvé.
Mais il vous apprécie à ce point-là ?
Tarfort, je ne contrôle plus rien. Je suis dépassé. Ah, je crois que j'ai créé un monstre.
Ah oui, nous aussi. Hein.
Non, mais là, ça pose un souci déontologique pour 2012.
On n'osait pas le dire.
Parce que j'ai déjà RTL et Europe 1 qui me mangent dans la main. Si en plus j'ai Radio France, ben l'opposition, elle va finir sur Rire et Chanson.
L'essentiel, c'est que vous en ayez conscience.
Ouais, mais j'ai pas de solution. Je nomme des mecs de droite, ils en font des caisses. Je nomme des mecs de gauche, ils en font encore plus.
Et oui, Philippe Val, c'est le seul anarchiste qui a trouvé un dieu et un maître. La suite.
La suite, c'est une question. Quels sont ceux qui seront les meilleurs témoins de leur temps ? Rézère ou Raffarin ? Bourdieu ou BHL ? Didier Porte ou Jean-Marie Bigard ? Je vous laisse la réponse, le soin de choisir. En tout cas, il arrive certains jours et certains matins et que certains de ces humoristes trouvent les mots exacts, et c'était le cas ce matin sur France Inter.
Bonjour. Quel bordel, mes amis, quel bordel. L'affaire Guillon, l'affaire Porte sont devenues nationales. Les hommes politiques ont réagi avec virulence, les humoristes sont montés au créneau. Le président de la République m'a demandé de passer à l'Élysée afin de traiter l'humour sur France Inter. On voit par là que le président a le sens des priorités. L'équipe de France porte Guillon et la semaine prochaine, s'il trouve le temps, il s'occupera des retraites. Tout le monde a fait sa déclaration. Notre camarade Guy Carlier s'est ému de la liberté d'expression. Il a raison, qu'il s'inspire de Didier Porte et de Stéphane Guillon pour évoquer avec autant de virulence son employeur Lagardère et mesurer ainsi sa liberté d'expression sur Europe 1. Quel bordel ! Moi, France Inter, c'est ma radio. Depuis toujours. Depuis le lycée, quand je rentrais sur mon vélo pour écouter Jacques Chancel, qui radioscopait ceux que j'avais tellement envie de rencontrer. Depuis mes soirées d'adolescent passées dans mon lit avec José Arthur, en tout bien tout honneur, qui me faisait connaître des peintres, des artistes, un certain esprit, un certain humour, une forme d'insolence élégante. Depuis mes années de fac, quand ma journée s'arrêtait pour écouter Claude Villers, Pierre Desproges, Louis Régaud et le tribunal des flagrants délires. France Inter, c'est ma radio. Celle de Pierre Bouteiller et de Brigitte Vincent. Celle que j'écoutais quand Gérard Cyr, de sa voix chaude, disait ses contes si bien écrits, si surréalistes, offrant sans le savoir des perspectives à l'humoriste que je rêvais de devenir un jour. Pour moi, France Inter, c'est pour paraphraser Antoine Vitesse, une radio élitaire pour tous, exigeante et populaire, insolente et respectueuse de chacun. Tout ça pour vous dire que ce qui se passe en ce moment m'affecte, me bouleverse, m'attriste. Comment en est-on arrivé là ? Comment cette radio, qui à longueur d'antenne prône tant l'échange, le dialogue, paraît aujourd'hui si fermée ? Je ne suis pas Domenech, dit Jean-Luc Hesse. Méfie-toi, Jean-Luc, tu n'en es pas si loin. L'arrogance dont tu faisais preuve mercredi midi vis-à-vis de Stéphane Bern au journal de 13h, en balayant sa réaction plutôt digne, ça coûte pas cher de se déclarer solidaire 30 secondes, n'est pas sans rappeler l'attitude du patron des Bleus. Ton affirmation selon laquelle l'humour n'avait pas sa place le matin, contredisant totalement ce que Philippe Val m'assurait le soir au téléphone, tout ça, c'est des conneries, ressemble à une façon de diriger flou, nébuleuse, indéfinie. « Je ne m'appelle pas Domenech, dis-tu, ça tombe bien, je ne m'appelle pas Anelka et ne t'inviterai donc pas à pratiquer la sodomie passive. Je suis cependant triste de constater que l'ambiance de merde qui sévit actuellement à France Inter n'est pas sans rappeler celle qui a existé au sein de l'équipe de France et a conduit à sa perte. Le mépris n'est jamais une bonne méthode de gouvernance. J'adresse à Didier Porte et à Stéphane Guillon mes sentiments fraternels, mes regrets de ne plus les entendre sur la chaîne. J'ai dû du mal à comprendre en particulier que Didier Porte soit écarté du Fou du Roi, où son style caustique, mordant, impitoyable vis-à-vis des fausses valeurs et des vrais pantins, contrebalançait si bien l'attitude naturellement empathique et indulgente de Stéphane Bern. Si, comme le souhaite Jean-Luc Hess, l'humour doit être banni à 7h53, vous remarquerez que déjà ce matin, je n'ai pas pollué l'antenne par un excès de rigolade. Bonnes vacances à tous, on en a besoin.
Connu François Morel, bien évidemment, qu'on ne retrouvera pas, lui non plus, à la rentrée dans cette séquence du 7h55. Merci à toutes et à tous, c'était un hommage à ceux qui agrandissent la surface de la cage. Je vous signale que le répondeur de la base Si j'y suis restera ouvert au cours de cet été, de ces deux mois d'été. Vous pourrez y laisser des messages qu'on écoutera à la rentrée de septembre. Et puis sur labas.org, la-bas.org, vous pouvez laisser des messages qui seront mis en ligne sur ce site labas.org. Merci donc à toutes et à tous. Courage à ceux qui ne savent pas très bien quel va être leur sort. Et un dernier conseil de la saison, le Cirque Électrique organise ce soir un concert de soutien aux travailleurs sans papier, avec notamment Fantasio à partir de 20h au Cirque Électrique, place du Maquis du Vercors, dans le 20e arrondissement de Paris, à la porte des Lilas. Donc, lundi 30 août, on se retrouvera. Très bonnes vacances à tous. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, et notamment des nouvelles de cette journée nationale de mobilisation le 1er juillet, à l'initiative de la CGT Radio France. À la technique aujourd'hui, Éric Mainviel et Thomas Eliès, Koye Nguyen et Raphaël Moutarde ont réalisé cette émission et toutes celles de cette saison, assistée d'Agnès Le Bot et Céline Rouzet. Donc, attend vos messages sur le répondeur de la base Si j'y suis, au 01 56 40 37 37, qui, je le rappelle, restera ouvert tout l'été.
Une exécution ordinaire de Marc Duguin sort en DVD. Une jeune magnétiseuse est appelée secrètement pour soigner Staline, agonisant mais toujours puissant.
Personne ne doit être au courant. Si cela s'ébruite, n'aurait pas d'autre solution que de te faire disparaître.
Amical, pervers, le dictateur installe une relation où se mêlent confidence et manipulation.
Vois-tu que j'ai instauré la terreur de gaieté de cœur.
Une exécution ordinaire de Marc Duguin, un DVD France Inter.
Bel été à tous. Je vous laisse pour les infos avec Tessa Gromane. Salut.
Le gouvernement ne transigera pas sur l'âge légal de la retraite. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre François Fillon ce matin, au lendemain de la mobilisation contre sa réforme. L'âge de la retraite sera bien reculé à 62 ans. En revanche, une concertation reste encore possible sur certaines questions, a assuré le chef du gouvernement, comme la notion de pénibilité au travail. Roselyne Bachelot et Jean-Pierre Escalette auront l'occasion de donner leur avis, sans doute divergent, sur la débâcle de l'équipe de France la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. La ministre des Sports et le président de la Fédération française de football seront auditionnés par une commission de parlementaires. Thierry Henry, l'attaquant des Bleus, resté sur le banc de touche pendant les trois matchs de la Coupe du Monde, sera quant à lui au grand journal de Canal+ ce soir. La discrète visite de Nicolas Sarkozy en Seine-Saint-Denis mercredi soir fait plus de bruit que prévu. Alors qu'un jeune garçon est jugé cet après-midi en comparution immédiate pour avoir insulté le chef de l'État ce soir-là, voilà qu'un journaliste accuse un policier de l'avoir giflé. Les faits se seraient passés au moment de l'interpellation du jeune homme. Le caméraman de France 3 aurait reçu une claque alors qu'il tentait de filmer la scène. Le syndicat de journalistes SNJ-CGT de France Télévisions a décidé de porter plainte pour atteinte à la liberté de la presse. Jérôme Kerviel sera fixé sur son sort le 5 octobre prochain. Le trader, jugé pour avoir fait perdre près de 5 milliards d'euros à la Société Générale, risque de retourner en prison. Le parquet a réclamé 4 ans de prison ferme. Aujourd'hui, au dernier jour de son procès, ses avocats l'ont présenté comme la victime d'un système dont il n'est pas responsable. Dans l'Aude, l'histoire troublante de 4 adolescents d'un même village qui ont voulu se suicider. Une jeune fille de 15 ans est morte après avoir absorbé des médicaments. Les 3 autres sont hors de d'Angers. Ils fréquentaient le même collège. À l'origine de leur geste, la mort de deux de leurs camarades tués dans des accidents de la route. Selon le procureur de Narbonne, il n'y aurait pas eu de délit d'incitation au suicide dans cette affaire. En Afghanistan, 11 cadavres de civils décapités ont été découverts hier dans le centre du pays. La police accuse les talibans, qui coupent parfois la tête de ceux qu'ils accusent d'espionnage au profit des forces afghanes ou étrangères. En Chine, l'agglomération de Changsha, où vivent plus de 6 millions de personnes, est menacée par la montée des eaux. Des équipes de secours renforcent en urgence les digues de cette métropole qui se trouve au centre du pays. Au moins 235 personnes sont mortes et 109 sont portées disparues après les pluies torrentielles qui ont provoqué inondations et glissements de terrain dans le sud et le centre de la Chine. Près de 3 millions de personnes ont dû être évacuées à la suite de ces intempéries. À Wimbledon, la Française Marion Bartoli vient de se qualifier en 8e de finale en battant la Hongroise Greta Arn en 2-7, 6-3, 6-4. Trois autres Français jouent leur qualification aujourd'hui. Gaël Monfils en compétition avec l'Australien Leighton Hewitt, Paul-Henri Mathieu face au Russe Mikhail Yousny et enfin Arnaud Clément qui affronte le tenant du titre, le Suisse Roger Federer.
Les liaisons heureuses. Colombe Schneck.
Une rencontre entre deux écrivains qui s'aiment et qui parlent des livres de leur vie. Ce sont les liaisons heureuses de l'été. Ce samedi à 16h sur France Inter, retrouvez Gwenaël Aubry et Camille Laurent.
France Inter, la différence.
16h et presque 4 minutes sur France Inter, on retrouve Frédéric Lodéon pour son Carrefour de Lodéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Pour cette dernière émission de la saison, on se retrouvera en septembre, je vous propose un petit résumé, la génération 1810. On célèbre là maintenant une belle année Chopin-Schumann, il ne faut pas oublier Mendelssohn, qu'on a salué aussi il y a peu, il est né en 1809, et puis on pourra envisager à la saison prochaine de parler de Franz Liszt, lui, né en 1811. Félix Mendelssohn, ah oui, l'enfant gâté, il faut bien le dire, l'enfant heureux, c'est dans son prénom, Félix en latin, et qui a eu des parents tellement compréhensifs, des parents cultivés, des parents aisés, mais oui, c'est tellement rare dans l'histoire des musiciens. Et à 12 ans déjà, le gamin savait composer des petites symphonies pour cordes, certes, pas avec tout l'orchestre, mais enfin quand même, c'est une belle écriture. Voici par exemple l'Allegro de la première Symphonia, il l'a écrit comme ça, en do majeur de Félix Mendelssohn. Thank you. Allegro de la première symphonia pour cordes de Félix Mendelssohn, on sent la confiance du jeune homme, son audace même, peut-être. Et les interprètes, c'était le concerto Köln. Après ça, il a encore évolué. À 16 ans, Félix Mendelssohn va vers le génie, carrément, avec un nocturne à cordes qui est tout à fait délicieux, extraordinaire, enflammé, plein de force, plein d'élan. Et déjà, il a une prédilection pour un mouvement léger, le scherzo, le jeu musical. Il va en donner des exemples absolument extraordinaires dans ses trios, dans Le Songe d'une nuit d'été. Voici celui qui n'en vit à aucune autre œuvre, d'ailleurs, sa légèreté et son allant, c'est le scherzo de l'Octuor à cordes.